Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast Heureux au présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Aujourd'hui, nous parlerons de l'acceptation, un sujet que j'avais annoncé. Donc, chose promise, chose due. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses. Nous continuons ce début d'année avec ce sujet de l'acceptation qui m'est venu lorsque nous avons parlé du rendez-vous qui s'intitulait « Toujours à raison ». Et je pense que c'est vraiment une super opportunité de s'arrêter sur ce sujet de l'acceptation parce que nous avons besoin davantage de nous arrêter sur cette aptitude. Je dis bien cette aptitude parce que c'est quelque chose qui généralement s'acquiert et qui se développe avec le temps, qui s'affine. C'est un peu comme une sorte de pratique d'un sport ou d'un art. Plus on le pratique, plus on le développe. Alors, on a généralement tous un peu de cette aptitude, mais après, il va falloir travailler pour l'aiguiser, l'affûter. Première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi arriver à vouloir intégrer l'acceptation dans sa propre vie ? Parce que tout simplement, ça fait partie d'un phénomène naturel. On a besoin naturellement, je dirais même d'imiter la nature, et vous savez que j'aime bien utiliser ces exemples de la nature, donc j'y viendrai forcément, on a besoin naturellement d'accepter la réalité. La nature ne s'oppose pas à la réalité. La résistance est un combat quelque part. C'est un fonctionnement contre nature. C'est intéressant parce que la notion de changement, le refus du changement, est une forme de résistance. Ça veut dire que si vous êtes conscient d'être dans un refus de changement, et présent dans une forme de résistance, vous savez que vous consommez beaucoup d'énergie. La résistance consomme beaucoup d'énergie. Elle demande des ressources, elle demande de la concentration, de la centration. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Si vous revenez à l'époque médiévale et qu'on regarde sur le compte bancaire ou bien on demande à l'expert comptable de l'époque de nous donner les chiffres des dépenses nationales, il mettra facilement en évidence l'importance de la dépense militaire. Ah, intéressant. C'est par le bras militaire qu'on est dans la résistance. Le bras armé, c'est une manière de veiller, d'être dans une vigilance quasi permanente et de s'opposer à ce qui viendrait naturellement sur les territoires, se mettre en place, contrer d'éventuelles directions qui ont été prises. La résistance en soi est énergivore. C'est une des premières raisons pour laquelle il est important d'arriver à vivre l'acceptation. J'ai envie de prendre un exemple physiologique d'abord pour parler de l'acceptation et vous permettre de comprendre à quel point elle fait partie de la nature. Quand vous mangez quelque chose qui ne vous convient pas, mais que vous ignorez que ça ne vous convient pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction alerte immédiate de type allergie, de type diarrhée ou autre, maladie, on va dire, vous n'êtes pas conscient que l'aliment ne vous convient pas. Votre système, on va dire, physiologique fonctionne de manière à faire tout ce qui est en son pouvoir pour accepter l'aliment que vous avez consommé. Un des premiers grands acteurs de cette réalité, c'est le foie qui va demander la génération de tel et tel système, etc., enzymatique et autres, pour savoir comment on va faire pour se débarrasser ou pour assimiler la chose qui est considérée comme un corps étranger ou qui est considérée comme un corps gênant. Et à partir de là, le corps va inventer une manière de gérer cet aliment ou ce corps étranger qui est présent dans l'organisme. S'il n'arrive pas à la gérer, il va fonctionner avec un système qu'on va, je vais symboliser en disant un système d'alarme, où il va faire monter la fièvre, où il va déclencher une diarrhée ou quelque chose qu'on va appeler la maladie. C'est-à-dire que le corps va signaler un vrai dysfonctionnement. Mais la plupart du temps, et je dis bien la plupart du temps parce que nous avons tous les jours des éléments que nous ingérons qui ne devraient pas être là, parce que ce sont des bactéries, des virus, mais nous avons aussi des aliments qui ne nous conviennent pas, mais pour lesquels on s'en rend compte au bout de 20 ou 30 ans. Quand on s'en rend compte, nous avons tous les jours un système fonctionnel de notre corps qui a pris l'habitude de trouver des solutions pour faire en sorte que ce qui a été ingéré, quand il s'agit d'alimentation, mais qui a été aussi respiré, soit en moindre perturbation possible avec le fonctionnement de l'organisme. On appelle ça parfois en naturopathie l'encrassement tissulaire. Parce que plus on va donner à ingérer des éléments qui sont problématiques pour le corps, plus il va réussir, il va travailler pour réussir à le stocker et puis à l'éliminer. La maladie n'interviendra qu'au moment où le corps aura eu une telle difficulté à faire face à la situation qu'il se dira, bien voilà, j'envoie un système d'alarme. Mais pendant des années et des décennies, il est tout à fait possible de consommer et d'être confronté à certains nutriments, aliments et autres sans qu'il n'y ait de maladie parce que le corps a pris le parti d'accepter, de faire en sorte que le corps soit considéré comme étant non problématique. Et le premier point que je voudrais souligner sur l'avantage de passer par l'acceptation, c'est que ça nous place au présent. On va se poser la question au présent de ce qu'on peut faire, sans questionner le passé pour savoir mais comment ça se fait, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, mais pourquoi c'est arrivé, c'est pas juste. Non, on est là au présent, on est face à une situation, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment l'intégrer ? Comment l'ingérer ? Comment faire avec ? Là, ici et maintenant. On ne se projette pas non plus sur le futur en disant mais si on n'arrive pas à trouver une solution, comment va-t-on faire ? Non, de manière générale, déjà, on est là au présent. Qu'est-ce que je fais de ce qui se passe ? Je ressens une frustration. Qu'est-ce que je fais au présent de ma frustration ? Je ressens une émotion, quelle qu'elle soit. Je parle de la frustration, mais ça peut être n'importe quelle émotion. Qu'est-ce que je fais là, au présent de mon émotion ? Sans m'encadrer vers le passé, vers un éventuel coupable, vers... Non, qu'est-ce que je fais là, maintenant, au présent ? Je parlais avec une dame hier, en consultation, qui me disait ressentir sa colère et avoir choisi de ne pas l'exprimer, on va dire. J'allais dire de la refouler. Vous avez perçu que j'étais en train de glisser sur ce terrain-là, alors je le verbalise. Et qu'elle ne voulait pas dire à son conjoint qu'elle était dans cette émotion de colère. Et elle a fait un travail, en fait, inconscient, de poser la question, mais pourquoi je ressens cette colère ? Elle a commencé ce travail d'acceptation de la colère. Je suis en colère, je mets une étiquette sur ce que je ressens parce que je l'ai identifié. Maintenant, je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que je fais de ça au présent ? Elle n'en était pas encore là. Mais une fois que j'ai identifié la situation, qu'est-ce que je fais de ça maintenant ? Comme le foie nous fonctionne. Il voit une substance, il dit « qu'est-ce que je fais de ça maintenant ?» Il demande un coup de pouce au pancréas, à la vésicule biliaire, etc., etc. Donc vraiment, il y a un travail, on va dire, de l'ensemble de sollicitations des potentiels de mon fonctionnement psycho-émotionnel, comme le fait mon métabolisme, pour me dire « qu'est-ce que j'en fais maintenant ?» Deuxième étape, enfin deuxième avantage de vivre l'acceptation, c'est qu'on prend une distance avec le fantasme, et qu'on va avoir une tendance à regarder le fantasme autrement en disant merci le fantasme d'être présent. Seulement, j'ai compris que tu peux avoir de gros avantages, parce que ça me donne envie d'aller de l'avant, ça me donne envie de vivre telle et telle expérience, avec un réel inconvénient, c'est que le fantasme n'est pas objectif. Donc merci le fantasme, je ne veux pas dire que je vais maintenant cesser de fantasmer, d'aspirer à des choses géniales, des choses qui me donnent envie, pour lesquelles j'ai des ailes qui me poussent. Mais regarder le fantasme comme étant fantasme, de la même manière que je vais regarder mes émotions en les identifiant en disant « toi, tu es une émotion, tant, qu'est-ce que je vais faire de toi ?» Je vais regarder le fantasme en disant « fantasme, qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant que tu t'es manifesté ?» Je ne peux pas anticiper en faisant que le fantasme ne se manifeste pas. Là n'est pas la question. La question est de savoir quand le fantasme arrive, survient, qu'est-ce que je vais en faire ? Alors quand je parle de fantasme, la plupart des gens que j'accompagne imaginent que je suis dans un domaine sexuel. Parce qu'effectivement, c'est le sous-domaine dans lequel on a tendance à utiliser le terme fantasme. Mais je voudrais qu'on le regarde de manière beaucoup plus large, que le fantasme a une acception énorme qui concerne tout ce que je projette, que je désire et que j'ai envie de vivre et voir s'accomplir, ou parfois même que je suis capable d'auto-censurer en moi en me disant « je ne vais pas le vivre », mais... j'y aspire, si seulement c'était possible, comme le fait de trouver le prince charmant. Si je pouvais trouver l'homme idéal, etc. Ou bien la maison de mes rêves, ou peut-être le métier de mes rêves, peut-être le salaire de mes rêves. Et peut-être, vous voyez ce que je veux dire, c'est que finalement on est dans une projection qui diffère de la réalité présente et qui peut participer à nourrir une frustration. Parce qu'en fait on va faire cet écart. Le salaire que j'ai aujourd'hui ne me satisfait pas parce que j'aspire à avoir un salaire supérieur et donc je vis dans une perpétuelle frustration finalement. La maison dans laquelle je suis ne me satisfait pas non plus, donc je voudrais changer, mais je n'ai pas les moyens de le faire. Donc je nourris une frustration qui quotidiennement participe à flinguer une partie de ma prise de conscience du bonheur. Si j'accepte ma situation, eh bien je vais changer les choses. C'est pareil pour une maladie, c'est peut-être difficile à entendre parfois. C'est pareil pour un décès. Je passe par un décès, par une maladie grave. L'acceptation me permet de vivre la situation autrement, avec une baisse du stress considérable et augmenter de fait la possibilité de guérison. Le lâcher-prise est un moyen de baisser le stress et de favoriser l'augmentation de la guérison. N'importe quel praticien qui vous accompagnerait dans le cas d'une maladie grave vous dirait la même chose. Pour le deuil, vous avez perdu un être cher, c'est de la même manière. C'est-à-dire, détacher le fantasme de s'il était encore là ou qu'est-ce qu'il voudrait me dire, qu'est-ce qu'il voudrait que je vive. Vivez maintenant pour vous. Accepter qu'il ou elle n'est plus là fait partie d'un cheminement qui vous permet de recommencer à instaurer du bonheur dans votre vie. La troisième raison ou avantage de vivre l'acceptation, c'est une prise de conscience de ses propres limites, de son propre champ de pouvoir, champ des possibles. C'est-à-dire que je vais accepter ma condition humaine avec ses réalités présentes. Je ne vais pas espérer être plus fort, plus grand, meilleur, etc. Je vais accepter d'être qui je suis et par conséquent travailler avec les outils qui sont les miens, mes capacités ici au présent, mes aptitudes, mes savoir-faire faire, mon savoir-être, etc. Peut-être travailler de manière à évoluer en acquérant une meilleure compétence dans certains domaines, si j'ai envie de continuer à grandir. De toute façon, l'apprentissage, le changement fait partie de la vie naturelle. Il n'y a pas besoin de désirer changer pour changer. À la différence que quand je désire changer, je vais peut-être me trouver dans une direction qui correspondra davantage à ce dont j'ai besoin et ce que je veux, plutôt que si je laisse le changement se faire de manière spontanée, parce que de toute façon, le changement opérera. Mais ça me permet de me recentrer sur mon pouvoir, sur mon possible, sur ce qui m'est accessible, même si je désire aller un pas plus loin, sans être forcément en comparaison avec un autre, puisque l'acceptation, c'est aussi accepter que je suis moi, je ne suis pas un autre. On y reviendra d'ailleurs quand on parlera de la convoitise au cinquième point. Je vais justement glisser sur le quatrième point, mais peut-être juste avant. Attention, quand je dis accepter dans sa prise de conscience ses limites, son pouvoir, je ne veux pas encourager à l'autocensure, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de me dire, ou à l'autocomplaisance, je suis comme ça et je resterai tout le temps comme ça. Hein. L'idée est juste d'être conscient de là où on est, là, ici, maintenant, de ses capacités, de ses aptitudes, même si, comme j'ai dit, on peut aller faire un pas plus loin pour augmenter la capacité qu'on a, le savoir-faire et la compétence, hein, on est bien d'accord. Quatrième point, c'est d'arriver à faire une distinction claire entre le plaisir, la satisfaction et le besoin. Accepter, c'est prendre conscience qu'il est possible que mon plaisir et ma satisfaction du moment ne soient pas forcément assouvis. Parce que je vais focaliser mon attention sur le besoin. Quelque part, je pourrais faire la distinction entre plaisir, satisfaction répondrait à un pourquoi, en un seul mot, voilà, qui correspond à ce que j'ai voulu dans le passé et que je veux vivre maintenant au présent. Et le besoin pourrait servir de projection à une raison pour laquelle je veux vivre telle et telle chose. Donc en tout cas, faire la différence entre les deux parce que ça permet de clarifier, je dirais de manière peut-être assez concrète, la raison pour laquelle on va faire tel et tel choix. Parce que le choix plaisir est généralement de l'hyper court terme, alors que le choix besoin se projette davantage dans une construction et qui parfois peut être justement un appel d'air à un déplaisir, à une insatisfaction pour répondre à un besoin. C'est-à-dire que je vais passer moins de temps devant un jeu vidéo ou à courir derrière un ballon sur un terrain de foot parce que j'ai besoin de travailler, par exemple, pour augmenter telle capacité, telle aptitude, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Que le plaisir peut être reporté en me disant que le plaisir viendra en réponse à la réponse à mon besoin. Donc on va déporter le plaisir après, même si on a besoin du plaisir maintenant, je ne dis pas d'effacer le plaisir du présent, mais de pouvoir les remettre en perspective en étant conscient de la distinction, de la différence entre l'un et l'autre. Et j'arrive maintenant au cinquième avantage de vivre l'acceptation, qui est justement la convoitise que j'évoquais tout à l'heure. La convoitise, c'est l'envie de ce qu'on n'a pas, c'est l'envie de ce qu'ont les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est quasiment omniprésent et qui nourrit ces trucs qui passent à la télévision et qui vous flinguent votre film qu'on appelle les publicités. Vous êtes en plein dans votre film et paf, ça coupe pour une page de pub. C'est parce qu'en fait, les entreprises qui veulent vous vendre quelque chose ont compris que vous avez en vous un levier qui est magnifiquement puissant, qui est celui de la convoitise. Vous avez tel objet chez vous, mais en fait, vous n'êtes pas conscient qu'il ne répond plus vraiment correctement à votre... Alors, on va vous en parler en termes de besoins. Mais non, ce n'est pas vos besoins. C'est votre plaisir, votre satisfaction, parce qu'on n'a rien à faire que ça réponde à vos besoins. Si ça, vous cherchez quelque chose qui répond à vos besoins, vous allez sans doute reporter. Et les vendeurs n'ont pas du tout envie que vous reportiez votre décision. Ils veulent la prendre immédiatement. Donc, ils vont nourrir le désir du plaisir, de la satisfaction immédiate pour que vous passiez à l'action, et qui est l'acte d'achat. La convoitise est vraiment quelque chose qui est semé dans la population générale des pays riches, mais même de plus en plus dans les pays pauvres, qui fait que vous avez des gens qui vivent en costard-cravate avec une Mercedes dans un milieu dans lequel il fait 40 degrés à l'ombre, quoi. Donc c'est véritablement un poison. Un poison, mais qui nourrit justement le matérialisme, la volonté d'acquérir. L'acceptation est une capacité à faire en sorte qu'on se dise « Ok, je n'ai pas la même chose que, je ne vis pas comme, etc. J'accepte d'être moi, d'être satisfait de ce que j'ai. J'accepte d'être satisfait de qui je suis. J'accepte d'être satisfait de ma situation, de ma condition, de mon lieu de vie. J'accepte d'être atteint par telle ou telle situation qui... quelque part, est un handicap chez moi. Je l'accepte. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas opérer un changement, parce qu'on peut l'opérer dans le terme de besoin, et non plus de plaisir-satisfaction. Mais je l'accepte. Vous ne pouvez pas envisager un changement tant que vous n'avez pas accepté la situation dans laquelle vous êtes. C'est ce qu'on vous sème quand on, dans un flash publicitaire, on vous parle de la convoitise. On vous dit que vous êtes dans telle et telle situation, par conséquent, vous avez besoin de tel outil ou tel objet ou tel service pour changer de situation. On a besoin que vous acceptiez, que vous signiez en bas de la page en disant « Oui, c'est vrai, je suis dans telle situation. » Même pour les médicaments complémentaires, les compléments alimentaires, on dit vous avez mal à l'estomac. Ah, oui, acceptez que vous avez mal à l'estomac. Et quand vous dites que vous avez mal à l'estomac, voilà la solution, c'est notre médicament. L'acceptation est déterminante pour envisager une solution, un changement, même pour la convoitise. C'est la raison pour laquelle vous pouvez décider de passer par l'acceptation sans forcément aller signer en bas de la page de la convoitise en vous disant « Oui, j'accepte ça et j'ai choisi de m'en contenter. » Pas forcément évident. Et parfois, on a besoin d'être accompagné pour ça, hein, parce qu'il y en a qui sont dans cette forme de convoitise permanente qui se manifeste de manière flash pour ceux qui ont pulsion de dépenses, hein, la dépense compulsive. On achète des choses, on les met chez soi, et puis finalement, on ne les utilise pas. Pourquoi on a voulu passer à l'action ? Eh bien, il est difficile d'en sortir tout seul. Donc, on a généralement besoin d'être accompagné. Et puis, je voudrais terminer avec le cocktail d'émotions qui est en relation avec la frustration, la déception, les remords, la colère, etc., la tristesse, qui a des conséquences considérables sur l'estime et l'image de soi parce qu'on n'est pas en mesure d'accepter sa situation. Je l'ai évoqué dans un podcast il y a quelques semaines en vous disant « accepter d'aller mal ». Même là, on peut vivre l'acceptation. C'est-à-dire que j'aimerais bien être quelqu'un qui soit tout le temps jovial, qui soit super et qui n'ait pas de problème. Eh bien, ce n'est pas votre cas. Accepter d'aller mal. Accepter d'aller mal est le premier niveau nécessaire pour commencer à travailler à votre bonheur. Tant que vous luttez, que vous dites « non, je ne suis pas bien » et que je devrais être bien, etc., vous prenez conscience que vous semez un mal-être, une frustration, une déception vis-à-vis de vous-même. Acceptez que vous n'allez pas bien, acceptez que vous êtes en colère, même si c'est contre l'humanité tout entière, acceptez que vous êtes en déception récurrente, acceptez cela vous permettra d'aller voir quelqu'un pour être accompagné de manière à travailler sur cette réalité. Si vous avez le sentiment que votre vie est à côté de la plaque, mais que vous luttez en même temps contre, vous êtes dans la résistance. Vous consommez beaucoup d'énergie. Et généralement, vous installez dans la dépression. Je vous souhaite d'accepter. Entrez dans cette dynamique qui consiste à vous dire « je suis comme ça ». Si besoin, prenez votre cahier de vie, prenez une feuille de papier et notez votre situation présentes et ceux pour lesquels vous avez tendance à prendre conscience d'être en résistance. Si c'est en vous, ce n'est pas la peine d'être en résistance. Même s'il y a des choses que vous n'aimez pas en vous, c'est normal, tout le monde a des choses qu'il n'aime pas en lui. Acceptez-les, sortez de la résistance, baissez la consommation énergétique, et après ça, vous savez peut-être où vous tournez pour demander de l'aide. Et vous savez que cette aide viendra avec encore plus de fécondité après une phase d'acceptation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Ce rendez-vous vous a fait du bien, vous avez découvert quelque chose qui vous a enrichi et j'espère que vous pourrez mettre en pratique. Eh bien, écoutez, formulez-le. Dites-le sur les réseaux sociaux, dans les commentaires de ce podcast, sachant qu'en mettant vos 5 étoiles, vous participez à faire que ce travail sera connu par le plus grand nombre. Merci d'avance.